Merci beaucoup Sabrina, merci beaucoup Mathieu. Désolé pour ces petits soucis techniques. En fait, j'ai eu des soucis techniques avec mon ordi toute la journée. Mais bon, là, ça a l'air réglé. Et bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, même à distance. Donc, je vais aller au contenu tout de suite. Et c'est-à-dire. En fait, et partir du cadre conceptuel, des zones ateliers, mais pourquoi pas aussi de Oscar, et rappeler qu'ici, en fait, nous sommes dans une phase, disons, de la science qui est celle de la récomposition des savoirs. C'est-à-dire que dans la grande rue de la science, on décompose, on regarde les relations entre les différentes variables, différents domaines. Et avec ces grands cadres conceptuels, on revient vers une vision plus synthétique et d'ensemble. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que le cadre conceptuel développé dans le cadre des zones ateliers. Ici, j'en mets quelques exemples, mais je n'ai répertorié des centaines. Et en fait, je trouve aussi qu'il y a des qualités artistiques à ces cadres conceptuels. Ce serait beau un jour de pouvoir les analyser aussi comme des tableaux, pourquoi pas. Ceux-ci sont les cadres un peu plus généraux. Il faut savoir que moi, je suis un politiste de formation comme Camille. Je m'intéresse depuis toujours de la gouvernance des systèmes socio-écologiques. Il faut savoir que lorsque on s'intéresse à la littérature scientifique sur la gouvernance environnementale, sur la gouvernance des systèmes socio-écologiques, en fait, il y a un vrai besoin de mettre de l'ordre dans une littérature qui est très prolifique. On a beaucoup d'indices sur le lien entre un facteur, une variable avec l'autre, mais on a vraiment du mal à mettre tout ensemble. Cela est très important. Pourquoi? Parce que, comme vous savez bien, les cadres conceptuels sont nécessaires pour ensuite aller vers la modélisation, aller vers un travail plus formel. C'est un travail en fait pré-théorique qui sert ensuite pour identifier les bonnes variables. Sinon, on finit par développer des modèles qui reposent plutôt sur les données qu'on a à disposition, sur les informations qu'on a disponibles, plutôt que sur les variables en fait qu'on sait déjà être importantes. Là encore, si on regarde en littérature, on trouve déjà des cadres conceptuels. J'en ai rapporté plusieurs, moins que par rapport aux cadres conceptuels généraux. Et par contre, un constat diffus est celui que ces cadres conceptuels, en fait, ne sont pas très satisfaisants. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de les appliquer à des cas d'études concrets, on se rend compte qu'il y a toujours des dimensions importantes qui manquent et donc leur opérationnalité est assez limitée. Il y a quelques mois, je suis attelé à faire un travail de recensement et d'analyse comparative de ces cadres conceptuels. Je suis rendu compte, en fait, qu'il n'y avait pas de cadres conceptuels qui étaient capables, en fait, d'intégrer toutes les différentes dimensions qui sont soit prises en compte déjà par des cadres conceptuels plus généraux ou spécifiques, ou qui émergent clairement de la littérature. J'ai donc fait quoi? J'ai développé mon propre cadre conceptuel que j'ai appelé, pour des raisons qui sont évidentes tout à l'heure, le réacteur politique. Pourquoi cela, à mon avis, important, au-delà des enjeux un peu scientifiques, théoriques, tout à l'heure? On parle beaucoup de trajectoire. On parle beaucoup du besoin de transformer ces trajectoires pour aller dans des directions qui nous semblent plus soutenables, plus résilientes. Sans gouvernance, c'est seulement la business as usual, seulement ce scénario qui s'impose. C'est la gouvernance en fait qui nous permet de flécher ou pas ces trajectoires. Et donc, ce qui est selon moi très important, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit. Parce que nous sommes ici tous réunis parce que nous sommes intéressés par les systèmes socio-écologiques. Nous sommes tous persuadés du fait que les systèmes socio-écologiques sont des systèmes adaptatifs complexes. Or, nous ne nous rendons pas compte du fait que la gouvernance elle-même est un système. Et la gouvernance elle-même est un système adaptatif complexe qui est composé aussi par des sous-systèmes qui peuvent être en fait parfois autoréférentiels, comme par exemple le processus politique, et qui conduisent ensuite à ce qu'on va appeler des politiques ou des actions hors sol, parce qu'ils ne vont pas, ils vont être autoréférentiels, ils ne vont pas être connectés avec, pas que les écosystèmes, aussi avec, avec la société, comme on voit aussi des débats actuels autour du Covid. Donc, pour faire très simple, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Bon, mais donc, ce schéma conceptuel est composé par quatre composantes principales. Donc, d'un côté, le processus politique, où nous retrouvons les acteurs, les différents types d'acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, mais aussi les acteurs individuels, pourquoi pas. Et c'est très important de comprendre que leur configuration est essentielle, parce que ce sont les différentes configurations d'acteurs, par exemple les rapports de pouvoir, qui peuvent conduire ou pas à une action collective. Par exemple, si nous nous retrouvons dans une configuration d'acteurs particulièrement polarisée, ensuite nous irons vers pas d'action collective, dans le sens que les différents grands systèmes d'acteurs sur notre système focal vont n'être pas capables de se mettre d'accord, soit même vers une situation conflictuelle. Ensuite, cette action collective, en fait, n'existerait pas si on n'avait pas des instruments, des outils pour en fait mettre en œuvre les décisions, les comportements, les actions qui émergent de la configuration des acteurs. Et cela sont les fameuses politiques publiques, donc ces outils de mise en œuvre. Il faut savoir cependant que les politiques publiques, elles aussi, sont une sorte de système, parfois même autoréférentiel, dans le sens que lorsque vous introduisez un nouvel outil, cet outil baigne dans un contexte où il y a déjà beaucoup d'instruments qui vont souvent coexister. Et souvent, l'interaction entre ces outils, et ces outils, de quoi il s'agit? Il s'agit essentiellement, vous comprenez bien, donc processus politique, c'est des discussions, c'est des débats, les gens causent, échangent. Et à un moment donné, que signifie un instrument? Ça signifie que plusieurs acteurs, ils vont se mettre d'accord, donc le débat s'arrête. Et c'est un instrument essentiellement, un débat politique cristallisé. Donc, on prend une décision, on reste sur cette décision. Cependant, tous ces instruments interagissent entre eux de manière, là encore, une fois, parfois autoréférentielle, ce qui conduit parfois à des actions qui peuvent paraître au moins hors sol. Heureusement, le système n'est pas linéaire, et c'est ça un peu le souci de. Des approches qui mettent un peu trop en avant la dimension temporelle, dans le sens que on ne va pas uniquement dans une direction, il y a aussi les rétroactions, et fort heureusement, parce que les rétroactions et donc la réaction, ce n'est pas la boucle de rétroaction, c'est la boucle de réaction dans ce cas, est la façon dans laquelle, en fait, on répolitise les instruments existants, les actions existantes, donc on rouvre le débat. Par contre, là, forcément, ça repasse par un processus politique. Donc, vous comprenez, c'est un système en lui-même qui en plus, est particulièrement complexe. Je vous explique pourquoi. Parce que ces systèmes, en fait, ont lieu souvent en même temps à plusieurs niveaux. Donc, au niveau national, au niveau local, au niveau international. Et là, je simplifie beaucoup, hein, parce que par exemple, pour les ressources en eau, on a aussi les bassins, les sous-bassins, ainsi de suite. Mais aussi, c'est quelque chose qui se décline dans le temps. C'est-à-dire, on a des cycles de court terme, la gestion de l'urgence, mais aussi, on a des cycles de moyen et de long terme qu'il faut aussi prendre en considération. Et finalement, il faut savoir que, il faut se rendre compte que ces processus politiques, ces systèmes de gouvernance, ont souvent lieu en parallèle, en même temps, dans plusieurs secteurs d'activité, qui donne l'impression souvent d'une cacophonie en fait de processus qui ne sont pas toujours intégrés. Et dans ce point de vue-là, il faut être conscient du fait aussi que l'intégration des politiques sectorielles est aussi une sorte de politique publique, une sorte de secteur d'activité. Ensuite, il faut être conscient du fait aussi que les idées ont un impact important, y compris par exemple la mémoire, donc de ce dont on se souvient des actions passées, ont un impact important, influence l'action collective. Et ensuite, vous vous demanderez tous, mais l'environnement, les écosystèmes, où ils rentrent-ils en fait, ils rentrent, et ça c'est un parti pris en fait que je prends, par la boucle des réactions, et cela est souvent filtré par les scientifiques, par les experts, comme il a été mis en avant aussi par Camille tout à l'heure. Donc, après, ceux-là sont les éléments principaux. Ensuite, pour chaque, disons, case, il y a toute une série de variables, toute une série d'éléments qu'on sait, de par la littérature, être particulièrement importants et que j'ai cartographiés dans ce schéma conceptuel. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour une question de temps. Ici, donc, vous voyez bien que un système de gouvernance, en fait, la gouvernance des systèmes socio-écologiques ne peut pas être réduite à ce qu'on appelle typiquement la gouvernance environnementale. Pourquoi? Parce que la gouvernance environnementale, que je représente ici dans ce schéma, essentiellement se réduit à les choses que vous voyez ici en vert ou avec les petites planètes. Et ne prend pas en compte tout le reste qui est cependant aussi très important. Dans la littérature sur la gouvernance environnementale, par exemple, on va s'intéresser beaucoup aux partis verts, aux groupes écologistes, à la recherche environnementale qui est très important. Mais il ne faut pas oublier qu'en parallèle de tout cela, il y a la gouvernance dans son ensemble qui va intéresser aussi d'autres secteurs d'activité, l'économie, le social, la santé, ainsi de suite. Donc, où cela rentre dans le schéma conceptuel des zones ateliers, selon moi, en fait, c'est précisément ce qui se trouve, qui nous permet d'aller de la gouvernance vers les instruments qui vont ensuite avoir un impact. Donc, la gouvernance qui va prendre en compte les services écosystémiques et qui ensuite va produire les instruments, les pratiques qui vont avoir un impact sur le biophysical template ici dans le schéma. Pourquoi c'est important de travailler sur ces questions, pas à l'échelle des sites, mais à l'échelle des zones ateliers? Parce que la société, en fait, comme vous voyez qu'on voit très bien de ce schéma qui a été publié récemment par Clark et Harley, en fait, la société s'organise à niveau méso. On a vraiment du mal à travailler autour de la gouvernance au niveau de chaque site atelier, par exemple. Il nous faut vraiment, mais aussi au niveau planétaire, hein, c'est vraiment complexe, comme les collègues de System Governance dans Future Earth nous montrent bien. C'est vraiment au niveau méso, hein, c'est-à-dire entre ces deux, qui se joue l'analyse aussi, mais aussi les résultats de systèmes de gouvernance. Et c'est pour cela que les zones ateliers, moi selon moi, sont extrêmement pertinentes. Ici, très brièvement, il faut être conscient du fait que ce n'est pas, disons, l'application de ce schéma conceptuel n'est pas quelque chose qui peut être monopolisé par une discipline, certainement pas la science politique, et que demande en fait la mobilisation de toute une série de disciplines. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'un seul chercheur va avoir beaucoup de mal à faire, disons, tout seul. Très brièvement, comment appliquer cela? Et franchement, ce travail est quelque chose qui est prêt, disons, la partie conceptuelle depuis plusieurs mois. Et là, ça fait plusieurs mois pendant lesquels je me suis beaucoup intéressé à l'application concrète de ce cas, à un cas d'étude que je connais très bien, celui de la mer d'Aral. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous savez tous, c'est une des plus grandes crises environnementales du XXe et du XXIe siècle. Et nous avons une panoplie de publications, souvent de très très bon niveau, Or, lorsque on rentre dans les détails de ces publications, on se rend compte que si on prend après le schéma conceptuel, en fait, ce sont seulement les parties que vous voyez ici en gris un peu plus foncé, j'espère que ça se voit bien, qui sont traitées par la littérature scientifique. En fait, tout le reste échappe un peu des radars de la recherche, aujourd'hui au moins des travaux les plus connus. Cependant, lorsque on s'intéresse et là, c'est vraiment important de regarder dans le temps, hein, les systèmes de gouvernance comme ils évoluent, on se rend compte qu'il y a, par exemple, dans les années 40 entre les années 40 et 60, à l'époque soviétique, il y a toute une série de variables, de secteurs, d'acteurs même individuels, de types de politiques publiques qui émergent clairement et qui sont, je répète, ils sont pas suffisamment traités dans la littérature aujourd'hui. Par contre, on se rend compte que si on analyse la situation dans les années 60, 10, 80, qu'en fait, le système de gouvernance lui-même change. On a des nouveaux acteurs qui entrent en jeu, des nouvelles politiques plutôt sur le long terme qui entrent en jeu. Et ensuite, on se rend compte qu'aujourd'hui, encore une fois, le système de gouvernance a changé. Et qu'est-ce qui fait ce schéma conceptuel? En fait, nous permet de nous rendre compte en fait de ces systèmes, de ces changements dans les systèmes de gouvernance, mais aussi de nous rendre compte et bien cartographier là où il y a les points de blocage, c'est-à-dire là où la gouvernance se grippe, hein, se
John,
bloque.
il te reste 2 minutes.
Et oui, je finis maintenant. En fait, c'est la conclusion. Mais aussi, ça nous permet de rendre compte, pas dans ce cas d'étude, il y a d'autres cas d'études possibles, de là où la gouvernance, parfois, le système de gouvernance va aller trop vite, où en fait les cycles le processus politique et les politiques de mise en œuvre et les boucles d'action vont peut-être un peu trop vite, ce qui ne permet pas en fait d'avoir une réelle efficacité, une réelle mise en œuvre, comme dans le cas, par exemple, aujourd'hui, des politiques anti-Covid qui vont peut-être un peu trop vite pour être appréhendé par la société. Ce sont des choses que je mets en place en fait depuis plusieurs années dans mes activités de conseil avec l'Union européenne, avec les Nations unies. Et ici, vous voyez par exemple comment, avec aussi d'autres collègues, avec ces idées, on est en train de transformer le système de gouvernance de l'eau d'un pays d'Asie centrale, le bassin de la mer d'Aral, le Tadjikistan. Tout cela rentrera bientôt dans un article que je vais soumettre à PNAS, et si ça ne sera pas accepté, Ecology Society ou d'autres revues de ce genre, je vais transmettre vraiment très, très bientôt. Et de mon point de vue, ce sera la base, en fait, au moins pour moi, de mes 10 prochaines années de recherche, bien sûr, appliquée surtout au projet de Zone Atelier Argonne que je porte avec plusieurs collègues à Reims. Merci beaucoup pour votre attention. Vous aurez compris avec cette dernière slide aussi que ici, ce n'est pas que de la science de la durabilité ou de la science politique, c'est aussi de la philosophie avec des inspirations un peu diverses et variées. Je ne sais pas si on a encore 2 minutes pour des questions, mais peut-être oui, peut-être non, ça dépend de toi, Sabina.